un chauffeur de bus a-t-il refusé l'accès à une passagère en jupe? La Régie des Transports parisiens ouvre une enquête interne. Le conducteur sera entendu et en parallèle, un appel à témoins est lancé. La nouvelle flambée de violence entre les Israéliens et les Palestiniens fait 5 morts, un côté Israël et 4 du côté de l'enclave palestinienne, dont un bébé et sa mère enceinte. Il y a eu en tout près de 250 roquettes lancées contre l'État hébreu avant des dizaines de raids en représailles. Nouveau rebondissement juridique dans l'affaire Vincent Lambert. C'est maintenant le Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU qui demande à la France de suspendre toute décision d'arrêt des soins de l'homme en état végétatif depuis 10 ans après un accident. En début de semaine, la Cour européenne des droits de l'homme avait rejeté la requête des parents. Ces derniers refusent l'arrêt des soins de leur fils, décidé par le Conseil d'État. C'est la plus faible mobilisation des Gilets jaunes depuis le début du mouvement. Ils étaient moins de 19 000 partout en France, d'après le ministère de l'Intérieur. Moins de 1500 à Paris. Des manifestations très tranquilles, sauf à Toulouse et à La Roche-sur-Yon, où des grenades lacrymogènes ont dispersé les manifestants. 5 Vendéens ont été blessés et il y a eu des dizaines d'interpellations. Le jeûne du Ramadan commence demain. Le Conseil français du culte musulman a tranché en observant la lune. C'est l'un des piliers de l'islam où les croyants s'abstiennent de boire, de manger et d'avoir des relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil pour se concentrer sur leur foi. Les Nantais la perdent à la fois justement en handball. Ils ne retourneront pas au final fort de la Ligue des Champions. Ils se sont inclinés à Barcelone 26 à 29. Bonne journée.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport. Avec Philippe Carny.
Effectivement, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'était Tribune Sport la semaine dernière. C'est naturellement le premier dimanche du mois, donc c'est toute l'actu du ballon rond ce matin avec une équipe nombreuse et renouvelée ce matin. On va commencer avec notre ami rémois, Jean-Pierre Vaquel. Salut Jean-Pierre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Malheureusement, Reims ne sera pas en Coupe d'Europe.
Oui, mais on s'y attendait un peu, puis c'est un bien pour un mal.
D'accord, ok, on va en discuter tout au long de cette matinée. On va saluer aussi notre deuxième intervenant, un nouveau, qui va se présenter.
Bonjour, Guillaume, supporter parisien.
Ouf, il y a beaucoup de choses à dire, c'est bien.
Beaucoup, ouais, je sais, j'aurais peut-être pas dû venir aujourd'hui, mais voilà.
Si, c'est bien. Autre supporter parisien, donc qui fait aussi ses débuts sur l'antenne d'Hervé, c'est Vincent.
Oui, bonjour à tous, supporter parisien également, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a du positif, il y a du négatif, on en parlera.
Très bien, lui est aussi supporter du Parisien, du PSG, mais il est là depuis très longtemps. C'est notre ami José Vega. Salut José, ça va?
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Ça oui, va, très ça bien. S'est bien passé ce mois de football?
Un petit peu déçu hier soir, hier après-midi, le match nul du PSG au Parc, mais bon.
On va en reparler. Autre supporter parisien, Samy. Salut Samy, bienvenue en force, hein, le PSG.
Bonjour à tous.
Oui, ça va Samy?
Ça va, ça va.
Pas trop déçu par la saison du Paris, on va en discuter naturellement.
Fin de saison, difficile.
Ouais. Très bien, allez, il est vert de cœur, c'est un fidèle, un habitué, c'est notre ami Bruno Pascaud. Salut Bruno.
Bonjour à vous, et bah oui, les Stéphanois, on espère qu'une chose, c'est finir devant les Lyonnais. Après,
on va,
Coupe d'Europe ou pas Coupe d'Europe, mais si effectivement on pouvait faire un petit pied de nez à nos amis lyonnais, ça serait sympa.
Très bien, il était avec nous quand on était en configuration 2 heures entre 2005 et 2012. Il est là aujourd'hui, c'est Maxime. Ça va Maxime? C'est une bible de football Maxime, hein. Ça va Maxime?
Bonjour à tous, ouais. très heureux de faire mon retour aujourd'hui.
Voilà, c'est bien. Et puis bah notre ami aussi, autre verre de cœur. Et quel verre de cœur, Bibi Moreau, salut Bibi.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bon messieurs, nous sommes le 5 mai. Est-ce qu'on aurait dû jouer au foot aujourd'hui?
Non.
Non. Vous êtes d'accord? Non. Parlez bien en face du micro, s'il vous plaît. Hein. Je sais qu'il y a un micro pour deux, mais prenez le micro.
Vu ce qui s'est passé en 92, c'est tout à fait logique qu'on ne devrait pas jouer aujourd'hui.
On va
rendre hommage aux nombreux morts qu'il y a eu à Furiani.
18 morts et plus de 2000 blessés. Et puis, on avait décidé il y a quelques années, à travers la Fédé et puis donc la Ligue de football, de ne pas jouer au foot le 5 mai. C'est arrivé en 2012, hein, où une journée avait lieu le samedi. Elle avait été décalée au lundi 7 mai. Bon, depuis, on semble avoir un peu oublié, ce qui fait qu'aujourd'hui, dimanche 5 mai, on jouera au foot, notamment les matchs de Ligue 1.
Oui, mais je crois que les joueurs porteront un maillot.
Non, il n'y a qu'une seule équipe.
Il n'y a qu'une seule équipe.
Je pense que ça a été, en fait, la Ligue se conforte avec. C'est l'ensemble du football français qui est fautif, parce qu'à l'heure actuelle, en ce jour commémoratif, seule la Saint-Etienne, déjà, seuls les supporters stéphanois ne feront pas le déplacement. à Monaco. Mmh. Ça a été décidé depuis longtemps. Tous les joueurs stéphanois à l'entraînement porteront un maillot spécial en hommage à la catastrophe de Furiani. Ces maillots seront dédicacés, ils seront vendus aux enchères et l'argent récolté sera donc reversé à l'association des victimes de Furiani. Donc je crois que si, à la base, tous les clubs français s'étaient serrés un peu la main... ben on n'aurait pas joué aujourd'hui quoi. Mais la volonté malheureusement
on a un peu oublié hein, je crois hein. Ça, ouais, malheureusement alors, certains disent oui, il y a eu beaucoup de reports de matchs cette année avec notamment l'affaire des gilets jaunes. Donc aujourd'hui on a remis le calendrier à jour, ça aurait fait encore
un décalage.
Enfin, c'est toujours... peut-être une des raisons. Est-ce qu'il fallait pas faire comme en Angleterre simplement il y a eu aussi en Angleterre, on se rappelle un grave accident il y a une bonne vingtaine d'années ou trentaine d'années, c'était à Sheffield notamment. Est-ce qu'il fallait pas faire simplement une journée de commémoration, c'est-à-dire un hommage, une minute de silence, un applaudissement et jouer les matchs.
C'est moins, je pense que c'est moins.
En Angleterre, on joue. Hein.
Ouais, c'est moins représentatif.
C'est moins représentatif. On aurait pu jouer demain.
Oui, bien sûr.
Demain, il n'y a pas de gilets jaunes.
En 2012, ça s'est fait.
Voilà. Je veux dire que c'est quand même une catastrophe qui a touché le football français.
Ah oui, on s'en rappelle. Oui.
Le peuple corse.
On s'en rappelle. Oui.
Bon, à un moment, il faut rester. Mais c'est en France, c'est un peu ça. On oublie un peu trop facilement. Voilà. Les Verts ont pris la décision très rapidement. Mmh. Les supporters, depuis. De toute façon, c'est toujours comme ça. Depuis 92, les Verts ne font jamais de déplacement si ça tombe le 5 mai. Mmh. Donc, si nous, on peut. Toutes les sections de supporters sont capables de le faire. Les clubs français sont capables de prendre des décisions. Mais je crois qu'il faudrait que quelqu'un relance ça et ça serait suivi, quoi. Voilà.
Alors, l'argument a dit que. Ils avaient dit que c'était que lorsque le 5 mai tombait un samedi, ce qui est pas vrai. Hein. Mmh. Enfin bon, voilà, c'était l'argument, les derniers arguments de la Fédé de la Ligue professionnelle de football.
Enfin, de toute façon, ils trouveront toujours des excuses.
Voilà. Bon, on en est à la 35e journée. Du coup, Paris Saint-Germain est officiellement champion de France depuis quelques semaines. Alors, je vais demander à mes amis du PSG, est-ce que Paris, qui a donc décroché son 8e titre de champion de France, fait un beau champion?
Alors, Guillaume. Pour ma part, non.
Non.
Pour ma part, non. Je trouve que le championnat, enfin, c'est bête à dire, mais limite, dès la première journée, il était acté.
Oui, c'est sûr.
Pas pour être méchant, mais voilà.
On y était à la
On savait déjà
journée, hein.
qui savait être champion. Paris, on les attendait, c'était en Coupe d'Europe. Hum? C'était même acté que la Coupe de la Ligue et que la Coupe de France, ça soit Paris qui la gagne. Donc je trouve que non, cette année, pour
un
le
jour,
coup.
Un jour, faut bien qu'il la perde, quand même, cette Coupe de France.
Ouais, mais autant la Coupe de France. Dans la Coupe de la Ligue, je crois que c'était contre Guingamp, c'est
oui,
ça
ouais.
La Coupe de la Ligue, je trouve que le match, la victoire de Guingamp, elle a été assez particulière.
Oui, oui, oui.
Avec les pénalties et autres.
À Manchester, ouais, quelque part.
C'est
hein.
ça. Elle était assez bizarre.
Hein.
Ouais, sauf qu'il y avait plus d'envie et contre match, Guingamp oui, que contre Manchester, par contre.
Bien
mais voilà. Par contre, ouais, non, je trouve que la Coupe d'Europe, ça a été une débâcle. Le match, ils n'étaient pas du tout dedans à la fin, donc voilà.
Alors ça a plombé le restant de la saison, hein, parce qu'à partir de là, le ressort était cassé, et Paris a laissé filer en fin de saison, inconsciemment. On reviendra sur la défaite en Coupe de France du PSG. Même son de cloche, donc Paris n'est pas un beau champion, Vincent.
Alors, on est toujours content d'avoir le titre, ouais. Encore une fois. Après, pour revenir sur Coupe de la Ligue et Coupe de France... Moi personnellement, hein, en tant que ma petite personne, ça m'est égal. On peut la perdre, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'on soit champion, puisque pour moi, c'est obligatoire.
Oui.
On doit être champion.
C'est la moindre des choses.
Voilà.
Effectif.
Et surtout de faire un beau parcours en Coupe d'Europe. Ouais. C'est pas grave de perdre contre Manchester United. C'est pas grave de perdre contre la Juventus. C'est pas grave de perdre contre le Barça. Ce qui est grave, c'est de perdre comme on a perdu.
Oui.
Ou de se dire que en fait, on assiste impuissant à une défaite où on se dit mais vraiment. Où est l'envie? Où est ce côté guerrier, ce côté surtout que bon, on pourra revenir sur l'effet de jeu, sur la.
Alors, voilà. Le problème, c'est bien, c'est que ça se renouvelle malheureusement tous les ans. Il y a toujours un match que Paris rate et qui est le match essentiel, déterminant, qu'il ne faut surtout pas rater.
Ouais.
Hein, on l'a vu, bon, cette fameuse remontada, mais on l'a vu contre le Real Madrid aussi, où Paris avait été incapable l'année dernière de renverser la situation au match retour. On l'a vu contre Manchester City dans le passé, même à Chelsea, où Chelsea avait été plus guerrier à l'époque.
Alors,
qu'est-ce qui se passe dans ce club?
Moi, je vais dire, je trouve même que cette défaite contre Manchester United est plus importante et plus grave que celle contre le Barça.
Bien sûr.
Celle contre
bien
le Barça,
sûr.
on peut revenir.
Ça reste Barcelone.
On peut revenir sur ce qu'on veut, sur l'arbitrage, sur machin. Paris a perdu parce qu'il n'avait pas envie, mais c'était une première. C'était voilà. Là, on le sait, c'est déjà arrivé. Manchester United, qui était plus faible que le Paris Saint-Germain, je pense.
voilà, Manchester United était plus faible que le PSG. C'était pas le Barça d'il y a deux ans. C'était vraiment une équipe qui était prenable, surtout à domicile.
En plus,
en plus, c'était voilà, il y a, oui. c'est ce que j'en rigolais.
Un joueur de 17 ans.
J'en rigolais, voilà. Il y a des joueurs qui sont même pas modélisés sur FIFA. On parle quand même d'une équipe qui manquait d'expérience, qui était moins talentueuse que le Paris Saint-Germain et qui arrive quand même grâce à l'envie, grâce à ce qu'on veut, en profitant des erreurs parisiennes.
Bon, vous étiez au stade ce soir-là?
Non, malheureusement, non. Je n'y étais pas.
Trop cher les places.
Pour supporter parisien, ça, il faut avoir un budget pour voir les matchs en Coupe d'Europe.
C'est pour ça que vous supportez Saint-Etienne.
Moi, j'ai été abonné il y a
pour pendant aller tout en haut, voilà quoi, c'est pas.
J'ai été abonné quelques années, puis depuis 3 ans, je
n'ai rien que à 19 euros.
Samy.
Oui.
Oui, toi, ton sentiment, Paris fait un beau champion. 8e titre quand même.
Ouais, 8e titre, mais pour le championnat, ouais, enfin. Excellent début de saison, la fin un peu moins bien.
Ouais.
Après.
Leur serait cassé à cause de cette défaite contre Manchester. Pas de Coupe de la Ligue, pas de Coupe de France cette année.
Ouais, bah. Ouais.
On revient au début de l'ère Qatari, hein, avec un titre en 2013.
C'est ça. À chaque fois, on attend la Coupe d'Europe. On se dit que ça sera mieux chaque année.
C'est ça le problème, c'est que voilà. Les supporters. Enfin, moi, je le dis souvent, hein, ça me navre pour les supporters parisiens, parce qu'on leur fait croire tellement de choses et tout. Et quand on est supporter, enfin, moi, je vois, je suis en train de rêver à la Ligue des Champions si ça pouvait se produire.
Ah, c'est le rêve de sa vie, hein.
Oui, revenir de vivre ça. Donc, eux, dès le début du championnat, on leur dit, bon, vous allez être champion, vous gagnez les trucs. Et en plus, on dit, la Ligue des Champions, c'est pour vous, quoi. Les mecs, et puis arrivés là, leur rêve, il est un peu cassé, quoi. Mm-hmm. Donc, voilà.
Je pense aussi qu'on a rêvé un peu trop autour de Neymar. On a fait un engouement pas possible. Pour moi, pour l'instant, Neymar n'est pas un grand joueur du calibre de Messi et Ronaldo.
Oui,
et il ne le sera jamais tant qu'il ne sera pas mûr dans sa tête.
Alors,
pour l'instant, dans sa tête, c'est pas un grand joueur. Alors, donc, s'il n'a pas le mental, même si c'est un très bon technicien.
Alors, même Neymar tout seul, il tout seul.
Pourquoi c'était un grand joueur à Barcelone et pas à Paris?
Mais le contexte n'est pas le même.
Il n'était pas entouré par les mêmes joueurs à Barcelone qu'il l'est à Paris.
Et au Barça, il avait sa place, il a été changé
trois fois. Je compare ce joueur-là à Ronaldinho. Ronaldinho était un très grand joueur aussi, un bon technicien, mais au niveau mental. Bah c'est pareil que Neymar, c'est le même, exactement le même. La fête, les boîtes de nuit, voilà. Et quand on est joueur professionnel, on se doit d'avoir un mode de vie irréprochable. Pas de boîte de nuit, tout ça, bon, on peut le faire une fois de temps en temps, mais
c'est dur pour un joueur.
Vous voyez pas dans les journaux des Ronaldo et des Messi en boîte de nuit ou à la plage en train de faire les cons. C'est des gars qui pensent qu'au boulot. Mm-hmm. C'est football, football, football.
Maxime.
Et il sera un grand joueur quand il aura compris ça.
S'il reste à Paris, hein. C'est pas évident. Enfin bon.
Voilà.
Alors, ce qui se passe sur la fin de saison du PSG où effectivement les joueurs ont mentalement lâché, je pense que ça ne doit pas éclipser la première partie de championnat du PSG qui avait été vraiment très bonne. Paris survolait le championnat. A fait quand même des bons matchs. Après, bien évidemment, c'est plus facile de mettre en avant les carences actuelles du Paris Saint-Germain et ce qui se passe que ce soit dans le vestiaire ou même dans l'entourage du club depuis la défaite face à une équipe C de Manchester. Il va y avoir des choses à changer au niveau du Paris Saint-Germain.
Alors ça tombe très bien, c'est une question que j'allais poser. Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir le grand chambardement?
C'est qu'il le faudrait.
S'ils veulent pas dire qu'il va y avoir le grand chambardement, ils vont
rééditer les mêmes choses. Et ça fait quelques années, les mêmes causes, les mêmes effets.
Oui.
Mais il faut pas oublier que dans cette maison de Paris Saint-Germain, il manque un chef d'orchestre, il manque des gens qui savent taper sur la table, du poing sur la table, et tant qu'il n'y aura pas ça, notre ami président du Paris Saint-Germain, il est très gentil ce monsieur, mais
c'est un pantin.
Ouais.
J'irais pas que c'est un pantin parce que c'est un terme un peu péjoratif.
8 présidences, hein.
Mais il faut pas oublier que un président de club, c'est pas ça. Même si moi j'ai quelques sur monsieur le président de l'OL, ben, ça c'est un président de club.
Oui.
Voilà, à Paris Saint-Germain, il n'y a pas ça.
C'est sûr que
on
c'est
est
pas...
bien d'accord.
Ouais, c'est sûr que c'est pas comme Michel Denisot à l'époque de Canal+. Hein.
Oui, oui.
Et j'en,
oui,
après... j'en parlais tout à l'heure avec mes amis, là, ben, c'est ce que je leur disais, ça m'a fait mal de dire ça, mais j'ai ce qui manque au PSG. C'est un Aulas, un tapis, un Bess, ouais, un Rocher.
Un Borrelli.
Un Borrelli, des gars, des patrons. Oui, voilà. C'est ça.
Je pense que malheureusement, si on espère un jour voir le président changer, on, tant que ce sera le Qatar, je pense qu'on rêve. Parce qu'on connaît vraiment les liens, ouais, qu'il y a entre l'émir du Qatar, qui est le propriétaire du club.
Est-ce que le problème n'est pas là, est-ce que le problème, mais bien sûr qu'il est là. Mais depuis que les Qataris sont arrivés à Paris, et ça me fait penser à un événement que j'ai vécu. Un jour, on est allé porter des drapeaux avec les amis du PSG pour mettre sur les sièges.
Cher à Juliette, hein.
Voilà, j'ai pensé à Juliette. Ce jour-là, on était géré par les Qataris. Mais j'y mets, mais où on est tombé là? Une association de bénévoles qui viennent donner un coup de main pour le Paris Saint-Germain, ils sont traités comme des chiens.
Ouais.
Non mais attends, on va où? Ouais. Donc ouais, forcément, la maison de PSG, la maison gérée par les Qataris, mais c'est pas un club de foot. Mmh. C'est un club de businessmen. Mmh. Et vous avez des joueurs sur le terrain, ce sont des businessmen. Même si le football à l'heure actuelle, ce sont beaucoup de businessmen, ouais, sur le terrain en crampons. Mais là, on a un panel de gens qui n'ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est toucher les royalties, soit pour les transferts, soit pour leur propre denier.
Alors justement, Bruno, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que les joueurs ne sont pas plus importants que le club par rapport à certains grands clubs comme le Bayern, comme la Juventus, comme le Real, comme Barcelone?
Il n'y a pas d'institution.
On le sait, on le dit tous depuis, enfin tous les supporters qui ont connu le Paris Saint-Germain avant le Qatar, on est tous au courant de tout ça. Et je pense aussi que, et après ça c'est fait, mais il aurait peut-être pas fallu vouloir aligner des stars tout de suite. Un club, enfin faut rappeler que le Paris Saint-Germain existe depuis 1970, c'est quand même un club très jeune. Chelsea, qui est un club bien plus vieux, a mis 10 ans à gagner la Ligue des Champions après le rachat d'Abramovic. Encore une fois, on gagne pas la Ligue des Champions en disant alors Neymar c'est le plus fort à son poste, on le prend. Mbappé c'est le plus fort, on le prend. Machin. C'est pas comme ça qu'on gagne une Ligue des Champions. Je pense que déjà de toute façon, il faut quand même rappeler qu'il y a des clubs comme la voilà, il y a des clubs comme la Juventus qui ont pas gagné cette Ligue des Champions depuis des décennies. Donc on gagne pas la Ligue des Champions facilement, et je pense aussi qu'en fait il aurait mieux valu vouloir monter graduellement, à savoir créer une très très forte institution avant d'avoir des stars dans ce club. Moi j'aurais préféré me battre pour le championnat chaque année pendant les 2-3 premières années en créant une vraie institution.
Parce que le problème,
disant,
il est là.
On va essayer,
bien
voilà,
sûr qu'il est là.
Et se battre en Europa League, gagner l'Europa League, prouver sur la scène européenne et enfin se dire qu'un jour on avait la prétention de gagner cette Ligue des Champions.
Le club du PSG a disparu le jour où M. Ibra a dit avant moi, il y avait avant moi, le PSG n'existait pas. Bah, quand on a des réflexions comme ça et qu'on laisse dire ça, forcément l'historique du PSG, bah, il en prend un sacré coup. Vous n'entendez jamais d'autres joueurs arriver dans un club dire bah, avant moi, ça n'existait pas.
Jean-Pierre.
Oui, non, je voulais préciser que ça fait 8 ans qu'il est président Nasser.
Oui. Oui.
Je pense qu'il aurait dû déjà en tirer les conséquences.
Non, c'est ça qui est grave.
Et moi, il y a une chose qui m'a choqué. À la finale de la Coupe de France, quand il y a eu la remise de la Coupe et la remise de médaille, Nasser était complètement sur la gauche, tout seul. Il n'y a pas d'âme dans cette équipe au niveau des dirigeants non plus.
Mais de toute façon, on fait le même constat là depuis des lustres.
C'est une entreprise.
Les fondations du PSG, on parlait plus. Que la dernière fois, je comparais le préfabriqué avec une maison solide. Il n'y a pas d'opposition. Qu'ils aient fait une belle partie de championnat avant d'être champion, mais c'est logique quand on voit l'équipe qu'ils ont. Ils ont mis en moyenne 4 buts, voilà. Mais il n'y a pas d'opposition le dimanche.
D'ailleurs, le championnat n'a pas été très emballant.
Non, il commence à être emballant là parce qu'on se bat pour la 3e et 4e place.
Mais
c'est bien.
Ou alors les clubs pour ne pas descendre.
Les clubs pour ne pas descendre. Malheureusement, il y en a qui vont prendre des points contre le PSG alors qu'ils n'auraient pas dû en prendre.
Ça, c'est vrai.
Voilà.
Donc en plus, ça fausse le championnat.
Et le président, pour revenir au président du PSG, mais le gars, il est, de toute façon, comme il n'a pas d'expérience, mais il est persuadé d'avoir raison. Ces gars-là, ils ont tellement...
C'est la raison du portefeuille.
Hein. Voilà, c'est la raison du portefeuille. Hein.
Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'au-dessus de Nasser, je pense que lui, il n'a aucune main mise.
Oui, c'est pour ça. Quand j'ai dit que c'était important, c'était ça, quoi.
Le Qatar, si lui dit tu alignes Neymar en pointe, de toute façon, Tuchel, il n'a rien à dire. Et c'est pour ça qu'actuellement, il faut bien dire un truc, c'est qu'on avait la chance... À chaque fois, on a eu la chance quand même d'avoir des très bons entraîneurs. On a craché sur Emery. Pour moi, Emery est un très bon entraîneur. On voit actuellement Arsenal, ce qu'il fait en Coupe d'Europe.
Il a gagné 2 Europa League avec Séville en plus.
C'était vraiment un très très bon entraîneur. On a eu donc Tuchel. Tuchel, on peut dire tout ce qu'on veut. Pour moi, ça a été aussi une très bonne pioche, un très très bon entraîneur. Mais on voit qu'à chaque fois, dès la mi-saison, on commence à remettre des bâtons dans les roues. On leur oblige à aligner des joueurs, même s'ils ne le désirent pas. Tuchel, on voit qu'il essaie quand même d'imposer sa patte avec les Dagba, avec certains joueurs que je pense d'autres entraîneurs n'auront pas alignés. Et, mais ça, je trouve ça un petit peu triste. Il faudrait vraiment leur laisser travailler, qu'ils puissent donner, je pense, une âme à cette équipe. Et après, on pourra prouver quelque chose. Mais tant que l'entraîneur ne pourra pas faire ce qu'il désire, on sera mort là-dedans.
Et en plus, comme ils ont pété tous les clubs de supporters et tout ça, il n'y a plus personne pour manifester.
Allez.
C'est vrai?
Ouais.
On fait ça à Saint-Étienne, t'as plus personne qui supporte.
Bah, c'est le dimanche au bar.
Voilà.
C'est vrai que nous, on parle.
Et c'est dommage.
Une précision, pour la, on parlait de la saison prochaine. J'ai regardé le match contre Nice sur Canal. Et Canal disait qu'il n'y aurait aucun changement au PSG pour la saison prochaine, à part 2 ou 3 joueurs.
Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Enfin,
alors, 2 ou 3 joueurs. Par contre, si je peux me permettre, je vais juste.
Pas qu'on envoie la pub, Maxime, après.
J'ai mis un petit bémol. Tout le monde a l'air de dire que Nasser est pas prêt de quitter la présidence du PSG. Moi, j'en suis pas certain.
Bon, on verra ça. On verra. Alors
Moi, je pense qu'il y en a un qui est en train de placer ses pions discrètement. C'est un ex-président, Nicolas Sarkozy. Avec Accor qui se place en sponsor. Nicolas Sarkozy, tu fais partie du groupe Accor. Il s'est jamais caché, c'est un fan du PSG. Attention, est-ce que ce serait pas le futur président du PSG?
On verra ça.
Ah, c'est pas...
Dans quelques mois. Non, mais ça fait déjà un moment qu'on en parle. Hein. Bon, voilà. Allez, la pub, la musique.
DMP Doc des matériaux du Perret, votre spécialiste des matériaux de construction à votre service depuis 1996. Professionnel et particulier, DMP est distributeur et stockiste des grandes marques pour tous vos matériaux, le bois au détail, le métal et l'outillage. DMP, c'est le conseil, la disponibilité et la livraison toute quantité. DMP Doc des matériaux du Perret, 10 rue Roseau au Perret en Yvelines. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 18h, ainsi que le samedi de 8h à midi. DMP Doc des matériaux du Perret, 01 30 46 30 97.
Information importante. Vous, oui, vous qui êtes en voiture, au bureau, à la maison, là, derrière votre radio. Attention, le 5 juin, augmentation du prix de l'électricité de plus de 5,9%. Alors pensez à hampoulled.com. Découvrez ses ampoules LED, ses luminaires LED, ses projecteurs LED, ses bandeaux LED et aussi ses éclairages de jardin et terrasse pour vos soirées d'été. hampoulled.com est joignable facilement et toujours à votre écoute. Besoin de renseignements, d'un conseil? Appelez hampoulled.com au 01 30 88 97 54. Un spécialiste est disponible pour vous accompagner dans votre commande. hampoulled.com, c'est simple d'utilisation. Et jusqu'au 5 juin, hampoulled.com vous offre un lot de lampes LED pour votre première commande. hampoulled.com, c'est la fête des éclairages LED tous les jours.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe. Je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinture écaillée. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
RVE, vivez votre région.
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la lutte du lutte, propre comme un archiduc, oncle Sam me doute. Hollywood nous burn, Hollywood burn, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. On dit gare au Torino. Mais gare à Gary Cooper, le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute des époques les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chine, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une touche cheveux se part, sous des types se baignent pour des motifs futiles comme dans les nouveaux westerns. Les Stets sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien le mal, le Duke et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moine dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne se noie l'individu. Pour rester lucide, il s'abreuvait de brandy. Désormais on brandit et les shit et baby. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western? Yeah. Le nouveau western. Le nouveau western. Western. Le nouveau western moderne. Le nouveau western moderne. Le nouveau western. Sitting Bull, Koshi, Calamity Jane, Jam, West, West. Le nouveau western. Le nouveau western. Moderne. Le Miguelito Loveless.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Et naturellement, cette émission, vous pourrez la réécouter en podcast. Vous êtes très nombreux, je sais, chaque semaine et chaque week-end à nous podcaster. Donc, vous pourrez réécouter naturellement cette émission en podcast. Je voulais simplement aussi vous rappeler un petit résultat concernant la course à pied, la Rambouillet Sport qui s'est déroulée la semaine dernière dans le parc du Château. Dans l'épreuve des 10 km, c'est Saïd Belkebir qui s'est imposé. Donc, il a fait la distance en 34 minutes et 9 secondes devant Clément Seguelem. Donc, 34 minutes 43 secondes. Troisième, Alex Libal en 35 minutes et 28 secondes. La première féminine, c'est Gabrielle Crissot de Saint-Quentin-en-Yvelines en 41 minutes et 20 secondes. On va quand même rappeler qu'il y avait 360 concurrentes et concurrents qui ont été classés. Et pour l'épreuve des 20 km, eh bien, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. C'est Théo Personneau de Rambouillet Sport Athlétisme qui l'a emporté 1h10 minutes 53 secondes devant Sébastien Servat en 1h14 minutes et 56 secondes. Et le troisième, c'est François Coudert, 1h15 minutes 1 seconde. La première féminine, c'est Claudia Terol qui termine en 1h32 minutes et 28 secondes pour les 20 km. Il y a eu 232 concurrents et concurrentes de classés. On va écouter, tiens, une interview de Laurent Fournier, qui était en stage au Perret en Yvelines, comme depuis 9 ans, lors de la semaine de Pâques. Et vous allez voir, on a aussi interviewé non seulement Laurent Fournier sur ce qu'il est actuellement, mais vous allez voir, il parle aussi du Paris Saint-Germain. Donc Laurent Fournier, qu'on a retrouvé avec beaucoup de plaisir, il avait été à notre micro il y a une bonne quinzaine d'années, lorsqu'il était entraîneur de Passy-sur-Eure. On l'a retrouvé avec beaucoup de plaisir, donc au Perret en Yvelines, il y a quelques jours. Allez, avec Laurent Fournier. Laurent, bonjour. Alors, ces stages au Perret en Yvelines, pourquoi et comment ?
Depuis 9 ans. Oui. Je crois que c'est le premier que l'on a monté en dehors de Feucherolles, de Poissy. Donc, il fallait le faire dans la continuité. Maintenant qu'il y en a, une dizaine en France qui se développe. L'objectif, c'est de faire gagner un peu d'argent pour les clubs amateurs, d'en gagner aussi. Et qui puissent s'acheter des équipements et travailler correctement.
Ce sont les gens du Perret qui vous ont contacté à l'époque ?
Ouais, à l'époque, c'est Pascal Parfait, oui. qui était là avec Jackie Degroise, qui ont eu l'idée de monter des stages Laurent Fournier. Maintenant, du bouche à oreille, sans trop faire de pub, on a développé. Et c'était la première fois cette année qu'on allait en Vendée au FC Nord 17 à côté de Maran.
Et donc ici au Perret, c'est pendant la semaine de Pâques. Alors qu'est-ce qu'on y fait ? On y trouve toutes les composantes du foot ?
On a monté un concept qui fait travailler la technique individuelle, le jeu à deux, le jeu à trois, communication entre parents et enfants avec des jeux qui se passent le vendredi pour s'amuser, pour prendre du plaisir.
C'est ça le plus important. Ça.
Puis surtout progresser, ouais. Aussi, je crois que quand on a une maîtrise du ballon, on se fait beaucoup plus plaisir que quand on n'arrive pas à le contrôler.
Ouais. Comment réagissent ces jeunes lorsqu'ils ont Laurent Fournier qui leur donne des cours, des stages ?
Bien, après on a un peu...
Ils regardent comme une idole, comme un maître ?
Non, je dirais pas ça, parce qu'ils me connaissent pas trop, ouais. Parce qu'il y en a la majorité, ils sont nés quand j'avais arrêté ma carrière. Ils savent qu'on a été entraîneur du PSG, ils savent qu'on a gagné la Coupe d'Europe. Après, avec Internet maintenant, ça a résolu pas mal de problèmes. Ils peuvent aller voir ce qu'on a fait et voir le palmarès que les joueurs ont réussi à gagner. Donc, ils connaissent un peu tout.
Oui. Alors, entre nous, là, parmi ces jeunes que vous avez vus cette semaine, il y en a qui sont un peu plus doués que les autres ? Naturellement ?
Oui, il y en a qui sont doués naturellement. Après, il y a des progressions. Il y en avait un que j'avais eu il y a 4-5 ans. Il était pas très, très bon. Là, aujourd'hui, cette semaine, il a gagné pas mal de concours. Donc, ça prouve qu'il a envie, même s'il a pas tout le talent. C'est bien de persévérer, parce que je crois que le foot, c'est un sport populaire. Où on rencontre des gens, où on a envie de partager. Il faut que ça continue comme ça.
Oui. Et puis votre savoir-faire aussi, vous en tant qu'ancien joueur, ça doit être fabuleux quand même, transcrire ce savoir-faire.
Déjà transmettre, je crois, ouais. Que transmettre une passion où on a vécu des moments exceptionnels qu'on a partagé avec les copains, des résultats positifs comme des résultats négatifs, ça fait une sorte de cohésion qui permet aussi aux gens de s'épanouir dans un sport collectif, et je trouve que c'est le plus important.
Oui. Et puis c'est une façon de ne pas oublier le foot amateur, parce que tout commence là, Laurent.
Ouais, c'est sûr, parce que quand on débute, on est dans un petit club, on joue avec ses potes, puis après on découvre peut-être qu'on a des qualités, et ces qualités permettent aussi de faire des grands joueurs. On l'a vu avec Mbappé qui avait commencé en région parisienne, on la voit avec pas mal de joueurs qui sont devenus de grands professionnels en commençant comme ça, peut-être à l'école, et c'est l'objectif de tous les sports, je crois, que ce soit le rugby, le basket. C'est de se découvrir un talent qui peut être permettre de faire une belle carrière.
Oui. Alors vous, c'est l'essentiel de votre activité, c'est ces stages maintenant, transmettre le savoir-faire.
Oui, il y a ça, et puis il y a autre chose. Je crois qu'on essaye aussi de monter pas mal de trucs. On a un restaurant à Feucherolles qui s'appelle l'Entrepote. On a une épicerie aussi qui s'appelle l'Annexe. Ouais. Tout mot qui permet de la cohésion, l'envie de partager, parce qu'en ce moment je crois que partager c'est le mot qu'il faut dire, parce qu'on retrouve certaines valeurs.
Voilà. Et puis vous, personnellement, peut-être reprendre un club dans la région parisienne, c'est possible prochainement?
Bah, c'est mon objectif, ouais. Mais peut-être pas dans la région parisienne, ou peut-être à l'étranger, ou voilà. Je crois que quand on a fait ce que j'ai fait au Paris Saint-Germain, à Strasbourg et à Créteil la première année, peut-être après il y a eu des moments beaucoup plus difficiles, mais ça fait partie d'une carrière. Il faut essayer de se remettre en question. Et surtout avoir envie, parce que quand on n'a pas envie, c'est compliqué. Et là, là j'ai envie.
Un petit mot sur le savoir-faire actuellement de Paris Saint-Germain, le regard que vous avez, vous, sur votre ancien club.
Moi, je trouve que les titres, ils les ont. Après, on a l'impression qu'ils ont du mal à passer un cap par rapport à la Ligue des Champions.
C'est quoi ? C'est l'âme qui manque ?
Je pense pas que ça soit une âme. Je pense que c'est peut-être à certains moments un manque d'humilité. Parce que quand on voit ce qui s'est passé contre Manchester et que Manchester, pour moi, est une équipe en dessous de tout, et que le Paris Saint-Germain perd à la maison alors qu'ils avaient le match en main, peut-être aussi, je ne veux pas dire manque de professionnels, mais quand vous voyez tous les blessés et qui sont passés au Paris Saint-Germain cette année, je crois qu'il y a peut-être un problème de méthode. On avait beaucoup critiqué le staff médical l'année dernière. C'est bizarre. Je crois que quand vous avez 12 préparateurs physiques et qu'ils n'ont pas peut-être la même façon de faire, et ben ça crée des blessures. Et je trouve que c'est pas normal et c'est mal géré.
Voilà pour Laurent Fournier, messieurs. Un commentaire sur ce qu'a dit Laurent Fournier, notamment sur le Paris Saint-Germain.
En premier commentaire, je trouve qu'il a tout à fait raison. Moi, je qualifierais même une faute professionnelle contre Manchester au match retour.
Le manque de préparation physique.
L'erreur qui a été faite, c'était surtout.
Ça peut être une des raisons aussi.
Déjà pour Neymar, je trouve que l'erreur qui a été faite, c'était de le protéger et pas vraiment l'opérer pour qu'il fasse la Coupe du Monde. Donc on a privilégié qu'il fasse la Coupe du Monde, alors que il faut pas oublier qu'il est salarié du Paris Saint-Germain et que normalement le PSG doit lui imposer des choses, même si c'est Neymar. Et je pense que l'opération était obligatoire et que on lui a bourré le mou en lui disant que t'inquiète pas, on va te faire en gros un pansement et que ça ira très bien. Ça, c'était la première erreur. Et juste un petit truc par rapport à ce qu'il a dit, Laurent Fournier, c'est vrai qu'il a fait des très belles choses au PSG et dans d'autres clubs. Et en ce moment, on a le Red Star qui va très mal, qui redescend encore une fois. On en parle avec Bibi. Je pense que c'est un club qui pourrait très bien lui aller. Donc voilà.
Oui, et puis on va rappeler qu'il a joué dans tous les grands clubs français, hein, Lyon, Saint-Étienne, Marseille, Paris Saint-Germain et puis Bordeaux. Voilà. Tiens, on va écouter Jean-Paul Lecourtois, qu'on a retrouvé avec plaisir, un des éducateurs du Perret en Yvelines, qui nous parle de ce que ça peut apporter, en tout cas, un stage Laurent Fournier pour un club comme le Perret. Donc, allez, avec un éducateur du Perret en Yvelines, Jean-Paul Lecourtois, qu'on est content de retrouver. Jean-Paul, c'est bien sympa, ces stages Laurent Fournier depuis maintenant 9 ans.
C'est très bien, c'est très très bien géré, avec le matin des gros ateliers techniques, l'après-midi des petits matchs avec souvent des thèmes. Et nous avons ici un cuistot hors pair et les enfants mangent tout ce qu'il y a et ils sont en pleine forme après pour aller sur le terrain.
Comment est venue l'idée de ce stage avec Laurent Fournier ?
Alors moi je n'étais pas là au premier, c'est venu avec l'ancien président qui s'appelait Pascal Parfait, qui le connaissait, qui lui a fait une proposition et depuis 7 ans ou 8 ans, ça marche tous les ans et extrêmement bien.
Et les enfants prennent ça très au sérieux. Hein. On essaye d'améliorer son côté technique, mais aussi son envie de jouer, le plaisir.
Ah, les enfants adorent parce qu'ils font que du football. Pardon. Les enfants ne font que du football et sont dans les exercices complètement. Ils n'ont pas de recul par rapport à ce qu'on leur demande de faire. C'est pour ça qu'ils prennent énormément de plaisir.
Et dedans, il y en a des plus loués que d'autres qu'on perçoit un peu.
Ah oui. Il y a 4 ou 5 enfants qui sortent vraiment du lot, qui ont une maîtrise technique bien plus importante et qui ont une vision du jeu bien plus importante. Et il y a surtout 2 petits qui viennent de Feucherolles exactement et dont l'un des deux jumeaux, ça a franchement beaucoup beaucoup de ballons.
Oui. Et puis c'est une bonne aussi publicité pour votre club.
J'espère bien.
Avec des bonnes retombées.
Ça marche tous les ans correctement. On n'a jamais dû interrompre le stage faute de concurrents. On a toujours du monde et on a un prix qui est relativement bas, qui permet aux enfants de pouvoir venir, c'est aussi ce qui fait notre force.
Très bien, un petit mot sur la saison, Jean-Paul, ça s'est passé comment ? Il y a eu la venue du variété, on l'a vu, hein. Comment se termine cette saison ?
Elle se termine, le gros dommage qu'il y a dans ce club, c'est qu'il n'y a pas d'équipe Fagnon, il n'y a pas d'équipe senior, parce qu'ils ne se sont pas très très bien comportés. Après, nous avons des vétérans, 2 équipes vétérans, dont une qui n'est pas trop mal, et puis on a une très très belle équipe de U15 qui est en tête de son championnat, qui va monter. Et il y a franchement deux ou trois gamins qui sortent vraiment du lot avec un très très bon niveau en U15.
Très bien, merci Jean-Paul.
Je t'en prie.
Voilà donc pour Jean-Paul Lecourtois, puis on espère que à travers toutes ces initiatives, hein, ce stage de Laurent Fournier depuis 9 ans et puis la venue en mars dernier du Variété Club de France dont on vous avait parlé, eh bien ça va rebooster et redynamiser ce club et notamment que cette équipe retrouvera une équipe notamment Fagnon. Allez, pour les places d'honneur, le championnat, donc on l'a dit, Lille 4 maintenant donc quelques points d'avance sur Lyon, Lille 68, ça c'était juste avant la 35e journée, Lyon 62, Saint-Étienne 59. Donc il ne reste plus comme suspense que la troisième place. Lille va sûrement accompagner le Paris Saint-Germain donc en Ligue des Champions. Après pour la troisième place qualificative à la Ligue des Champions et l'Europa League, ça se bat entre Lyonnais et Stéphanois, messieurs.
Oui, alors Lille, si Lyon bat Lille ce soir, Lyon vient à 3 points.
Oui.
Donc je pense qu'il n'y a rien de fait encore pour Lille. Même
je pense que c'est bon pour Lille. Enfin, bon.
Voilà, mais ouais. Voilà. Le plus important, c'est la troisième place. Mm-hmm. Si et Lille bat Lyon ce soir.
Oui.
Et
que Saint-Étienne bat Monaco.
Et que alors, Saint-Étienne bat Monaco.
Ouais.
Mais Vert accroche à troisième place.
Alors, Rennes qui a terminé, donc, qui a gagné la Coupe de France, 2-2 après prolongation, 6-5 au tir au but. Strasbourg qui a donc gagné une soporifique finale de Coupe de la Ligue. Ça veut dire que finalement, cette année, il n'y a que le quatrième qui est européen. Après, c'est terminé. Hein.
Ouais, mais bon, bah, de toute façon, je pense que c'est joué déjà. Marseille a encore. Comptablement, ils peuvent encore faire quelque chose.
Oh, ça va être compliqué.
Même si c'est
ça
dur,
va être très compliqué, je pense.
Ça va être très compliqué. Parce
Pierre
n'est
pas là, il joue au tennis ce
ouais,
matin, mais je crois que.
Bon, comme quoi, il est dépité, ça y est, ouais, voilà. Il a abandonné. Non, mais je pense que ça serait une bonne chose pour les Verts. Bon, déjà, l'Europa League, on a l'habitude, c'est vrai que régulièrement, sur les 6 dernières années, à part l'année dernière, on ne l'a pas fait. Enfin, non, cette année. Mais c'est vrai que nous, le rêve, ça serait de raccrocher cette Ligue des Champions. Ouais. Quoi.
C'est bien pour Rennes qui va terminer en milieu de tableau, qui a changé son image. Hein. C'était une équipe qui, traditionnellement, ratait tous les matchs importants. Là, cette fois-ci, Rennes a montré qu'elle savait gagner. Elle a gagné en finale de Coupe de France. Elle a fait un parcours tout à fait honorable donc en Coupe d'Europe. Elle a montré une autre facette. Et enfin, elle a enfin un trophée à son palmarès.
Ouais, puis c'est bien parce qu'on les a fait passer pour des losers pendant pas mal de temps.
Ce qu'ils étaient quand même. Hein. C'est vrai que les matchs importants. Bibi, deux finales de Coupe de France perdu contre Guingamp, une contre Saint-Étienne en Coupe de la Ligue.
En Coupe de la Ligue.
Ouais. Donc c'est vrai que cette équipe, elle n'arrivait pas à passer un palier. Cette fois-ci, elle l'a fait.
Voilà, puis c'est bien pour eux, c'est bien pour le football.
Il y a un bel état d'esprit dans cette équipe.
Voilà, il y a un bel état d'esprit. Voilà. Puis c'est des
c'est bien que la famille Pinot ne les ait pas abandonnés malgré quelques problèmes.
Voilà, ça, c'est la gestion de club.
Et puis ça redonne du baume au cœur aux supporters de l'Ouest de la France. Puis le football breton a été un petit peu en déficit ces dernières années.
Et il mérite d'avoir des représentants.
Exactement.
Et il y en a qui n'avaient jamais gagné. Donc. En tant que supporter, un trophée depuis leur naissance. Donc on peut imaginer tous ces jeunes, puisque le dernier trophée remontait à 71. On peut imaginer tous ces jeunes qui ont été joyeux de voir enfin leur club fétiche gagner une Coupe de France.
Non, puis en plus, ils ont fait un très beau match.
Oui, ils ont refusé de perdre, ils n'ont pas abdiqué. Et c'est là qu'ils ont franchi
généralement,
un palier.
Quand Paris mène 1, voire 2-0, les matchs très vite, ça part.
Je pense que leur expérience en Europa League leur a servi aussi.
Il leur a pas manqué grand-chose en Europa League. Un petit peu d'expérience de Arsenal.
Ils nous ont fait plaisir. C'était des bons matchs à regarder, des matchs de Coupe d'Europe. À la limite, plus sympathiques que ceux du Paris Saint-Germain.
Je trouve qu'ils avaient un très bon collectif et c'est ça qui a fait la différence.
Et puis, ils ont peut-être trouvé aussi un entraîneur.
Alors, on va parler justement des Coupes d'Europe, mais avant, je voudrais qu'on revienne quand même sur le bas de tableau. Guingamp, avec 24 points, semble condamné. Dijon, 28 points. Caen, 29 points. Ça va jouer entre ces deux clubs-là pour être barragiste.
Espérer
rester en Ligue 1.
Caen espère beaucoup dans l'effet Roland Courbis.
Oui.
Mais
ça marche. Et Dijon, ils ont
comboiré.
Mais
ça marche.
Et Dijon, ils ont comboiré.
Oui, mais moi, j'ai dit attention aux vieux sorciers. Mm-hmm.
Tiens, juste un petit mot de Ligue 2. J'avais promis à Jean-Pierre d'en parler. On a eu la chance d'aller à Bollard, voir le derby du Nord, 0-0 entre Lens et Valenciennes. Bon, un match à sens unique. Hein. C'était une attaque-défense. Il y a eu effectivement au moins 15 occasions pour Lens. Lens n'a pas concrétisé. Bon. Voilà, c'est souvent arrivé. Mais hier, ça a été mieux. Ils ont gagné 1-0 contre Clermont, réduit à 10, en étant hyper réaliste et efficace. Ils peuvent encore espérer, peut-être, jouer un pré-barrage. Mathématiquement, c'est possible. Mathématiquement, c'est possible. Après, ça va être difficile.
C'est un quasi-miracle, la victoire lensoise hier.
Oui.
Et puis, actuellement, l'équipe qui est devant au classement, c'est Lorient, mais il ne faut pas oublier que cette équipe de Lorient
joue demain
face à Niort.
Oui.
je pense que les Lensois auront quand même énormément de regrets de ne pas être en play-off en fin de saison.
Ils ont raté beaucoup d'occasions dans la saison, d'après ce qu'on m'a dit. Hein, ils ont raté beaucoup d'occasions. Ça a été un peu à l'image du match contre Valenciennes.
Il y a énormément de matchs qu'ils ont dominés. Ils n'ont pas vraiment réussi à concrétiser. Ça va être très compliqué pour eux d'accrocher les playoffs. Ouais,
mais ils sont qu'à 2 points du Paris FC, hein, Lens. Hein, donc mathématiquement, c'est pas encore exclu d'aller jouer un pré-barrage, hein, 3e contre 4e.
Ce qui est sympathique en 2e division, en Ligue 2, c'est qu'il y a quand même un beau challenge entre tous ces clubs. Mm-hmm. Et quand on voit des clubs comme Sochaux, Auxerre, Valenciennes, Nancy qui sont tous à la peine, on se dit, effectivement, là, on voit que l'argent y est pour quelque chose, puisque les budgets de ces clubs-là sont pas mirobolants. Et moi, où je suis très content, c'est qu'on va peut-être retrouver un deuxième club parisien.
Ah ouais, ça
serait quand même bien.
Le Paris FC. Donc pour l'instant,
c'est pas encore fait.
Ouais. Metz remonte, ça c'est officiel. Brest, c'est pratiquement fait aussi, c'est bien parti. Hein. Après, ça peut se jouer, mais le Paris FC.
Un deuxième club parisien en Ligue 1, ça serait quand même.
Le problème, c'est
toutes les capitales européennes ont plusieurs clubs dans le championnat phare. Il y a qu'en France où ça.
Après, s'il remonte, s'il n'y a pas d'investisseur, il risque de faire de la figuration et puis faire l'ascenseur, quoi.
Tiens, on aura en principe le mois prochain un des joueurs du Paris FC qui sera là. Donc, on aura largement l'occasion d'en reparler avec lui. Et bravo en tout cas à Lens, 35 000 spectateurs.
Hein, c'est fort,
c'est quand même, c'est phénoménal.
Je serais tellement content de revoir ce club-là en Ligue 1 parce qu'il le mérite, quoi. C'est
remarquablement bien accueilli, des gens fabuleux.
Quand on parlait de club avec des fondations, là, on est servi.
Il
y a plus de toiture.
Bon, je voudrais qu'on parle des Coupes d'Europe, messieurs. Ajax-Barcelone, les deux clubs de Cruyff, ça va être la finale prévisionnelle. Et puis en Europa League, peut-être Chelsea contre Arsenal, une finale 100% anglaise. Vous en pensez quoi?
Pour la finale 100% anglaise, moi je mettrais une pièce sur Arsenal, tout simplement dû à l'entraîneur.
Oui.
Ça, on a beau dire. L'équipe aussi tourne mieux et Lacazette en ce moment est très très fort.
Alors on voit un peu les matchs. Ils ont fait un match fabuleux contre Naples. Ça a été un des plus beaux matchs de l'année. 2-0. Avec une victoire à Naples 1-0. Où là, c'est vrai qu'on a été un peu déçus par Naples qui a pas su se révolter. Et puis, jeudi, excepté 20 minutes difficiles après 3-1, deux buts de Lacazette. Ouais. On peut penser qu'ils vont marquer à l'extérieur et qu'ils vont préserver ces deux buts d'avance.
Défensivement, ils sont par contre faibles.
Bon, je suis pas d'accord. Moi, je jouerais quand même Arsenal.
La défense d'Arsenal, par contre.
Mais attention, un club espagnol, ça reste un club espagnol.
Valence, ça n'a pas été très impressionnant. Mais enfin, bon, excepté 20 minutes. Voilà. Mais enfin,
Guedes, maintenant, il a fait 25 minutes.
Il paraît que Arsenal montre un autre visage quand il joue à l'extérieur. Alors.
Ouais. Et puis pour revenir à la Ligue des Champions, je vois pas Liverpool remonter 3 buts à Barça.
Énorme Messi.
C'est un souffrant d'anthologie.
Et pourtant, c'était un match très équilibré. Il y a eu des occasions de part et d'autre, mais Barcelone a été hyper réaliste.
Oui, je pense que le score ne reflète pas la physionomie de ce match-là. Mais les joueurs de Liverpool ont été plus ou moins maladroits, notamment Mané et Salah. Et en face, Messi a été tout simplement exceptionnel.
Messi résume le football à lui tout seul. Voilà,
Je pense qu'il va rattraper le retard qu'il avait pour le Ballon d'Or. Il va pouvoir récupérer un petit peu.
Malheureusement, pas pour le Barça, mais je pense que si on assiste à une finale Barça-Ajax, le match sera à sens unique. Je le pense vraiment.
C'est-à-dire que c'est Barcelone.
Je pense que le Barça sera nettement au-dessus.
Il faut se méfier de l'Ajax.
J'adore cette équipe. Elle est fraîche. Elle fait vraiment plaisir à voir.
C'est une finale.
Mais sur une finale,
c'est comment tu gères l'événement. C'est
une équipe de très très jeunes. Comment est-ce qu'ils vont gérer cette pression et le fait qu'ils n'étaient pas prévus pour ça.
C'est ça. Elle me fait penser un peu à l'Ajax de Johan Cruyff dans les années 70. Bon. Tout le monde attaque, tout le monde défend.
C'est
ce qu'on appelle le football total.
Par contre, Tottenham, Ajax, victoire d'Ajax 1-0 à Tottenham. Ajax a montré qu'il savait défendre.
C'est vrai.
Ils n'ont pas été bons. Ils ont été un peu perturbés par le système de jeu de Tottenham.
Ils jouent, il y a des jeunes, ils sont rapides.
En deuxième mi-temps, on n'a pas vu l'Ajax aussi enthousiaste qu'on a vu sur les matchs précédents. Mais l'Ajax a défendu face à une équipe qui a eu quand même peu d'occasions.
Je ne suis pas d'accord avec mon collègue. S'il y a une finale Ajax-Barça, ça ne sera pas sans unique. Je pense
ça sera ouvert. Parce que
il y aura peut-être que Barcelone est supérieur sur le papier, mais sur un match,
je souhaite vraiment me tromper.
Et quand on parle de jeunesse, je vous rappelle quand même qu'il y a une équipe toute jeune qui a été championne du monde.
Oui, mais c'est bien.
Non, mais si.
Oui, ça peut. Ça
t'as pas de soucis, t'as pas de soucis, t'as pas de peur quand tu.
Après, il y a un encadrement, il y a Overmars qui est derrière au niveau directeur technique. Ils ont un très bon entraîneur. Au niveau des joueurs, je trouve que ils ont l'attaquant de pointe, c'est Tadic, c'est ça là qui est. Comment il s'appelle? Celui-là, il y a Neres aussi, le petit Robert brésilien aussi, qui est sur le côté. Ils ont quand même une équipe.
Et c'est bien parce que ça a apporté une bouffée d'oxygène cette année. Hein. Ce dynamisme, cet enthousiasme qui a permis donc à l'Ajax d'éliminer le Real et puis la Juventus. Donc c'est bien. Mais est-ce que c'est pas l'équipe d'une saison? Parce qu'après, ça risque d'être.
Il risque de se faire dépouiller quand même, malheureusement.
Ça a déjà commencé
à l'intersaison.
De Jong a signé, De Ligt, il sait qu'il part, mais il sait pas.
De Jong qui s'en va aussi.
Neres, il y a des offres dans tous les sens. Il y a juste, je m'excuse, je me souviens pas de son prénom, mais l'attaquant, il a été refusé au Real, mais on sait très bien qu'il va partir.
Dusan Tadić, je pense.
Ouais, c'est ça, il a été refusé, mais bon, je sens que lui, il va partir vu la saison qu'il fait. En plus, le prix, c'est dérisoire. Je crois que c'est 14 millions pour un attaquant. Maintenant, 14 millions, qu'est-ce que c'est dans le football? Donc, ouais, ça, c'est sûr que les pauvres.
Et le Barça, c'est après, du solide. Hein. Après, c'est peut-être moins spectaculaire, mais c'est du solide.
Il faut aussi savoir que l'Ajax, c'est un tiers du budget qui est consacré à la formation.
Ouais, ça, c'est bien.
Et du coup, voilà, bon, c'est un petit budget, parce qu'il me semble que c'est 80 ou 85 millions d'euros. C'est vrai que ça fait rire quand on voit le parcours du Paris Saint-Germain ou de
c'est
Lyon.
C'est incroyable.
Parce que Lyon, c'est un très, très gros budget par rapport à l'Ajax. Faut pas
L'argent fait pas le bonheur. Hein.
Et voilà.
Heureusement.
Mais c'est surtout, en fait, quand on voit. Comme on dit, je préfère pleurer dans ma Mercedes que dans ma Clio.
Ouais.
Mais. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui devrait être. C'est un modèle qui devrait être copié par beaucoup de gros clubs, et notamment le Paris Saint-Germain encore. Parce que quand on voit que même un petit budget comme ça, ils arrivent à dégager un tiers pour la formation, parce que chaque année, l'Ajax depuis quelques années, alors. Là, c'est un parcours exceptionnel, mais chaque année, ils ont quand même un beau parcours en Coupe d'Europe. Ils ont été finalistes d'Europa League, finalistes malheureux, mais ils ont été.
Oui, il y a deux ans,
J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le Paris Saint-Germain n'a pas un centre de formation digne de ce nom.
Exactement.
Bon, petit aparté, Saint-Etienne a gagné la.
Oui, la Coupe de Lombardie, faut le dire, Bibi. Ça, c'est bien.
Merci quand même.
Voilà, ça fait du bien.
Le PSG, un centre de formation à Caen, mais un vrai, digne de ce nom. On est en région parisienne, je pense que des gens qui devront trouver
Et aussi un recruteur quand même qui valait le coup, parce que bon, Enrique, pour moi, il valait le choc vu ce qu'il a fait à Porto, vu les joueurs qu'il a apportés. Mais je pense qu'à Paris, encore une fois, c'est un pantin et on lui dit ce qu'il doit acheter, il peut pas vraiment faire ce qu'il veut. Quand on voit l'Ajax, je crois Neres, c'est 3 millions qu'ils l'ont acheté. L'attaquant t'a dit chez Paris, c'était un prêt payant mais dérisoire. Ils ont cette force d'une, d'attirer des joueurs talentueux et de créer une équipe autour de ça. Et il s'appuie sur un socle qui est le centre de formation, et ce qui est pour moi actuellement quelque chose de très 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 important pour deux choses. Paris, il faut pas oublier, c'est qu'actuellement il faut vendre aussi pour rapporter quand même de l'argent par rapport au fair play financier. Et on a beau dire avoir des jeunes joueurs limite gratuits qu'on revend quand même à des bons tarifs, c'est énorme. Et ça permet aussi d'avoir vraiment des joueurs qui jouent avec le maillot, qui respectent le maillot. Et ça, je trouve qu'au niveau du socle, c'est ce qui est le plus important.
Allez, la page de pub.
À Rambouillet, 14 bis rue Chasles, SMA Fenêtre, votre spécialiste de la menuiserie extérieure, vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres. Store, volet, porte et porte de garage. Sur mesure, en PVC, bois ou aluminium. SMA Fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste SMA Fenêtre, 14 bis rue Chasles à Rambouillet, au 01 30 88 62 32. Et du 29 avril au 18 mai 2019, votre magasin vous propose une promotion spéciale Foire de Paris. Moins 30% sur toutes les menuiseries, voire conditions en magasin.
LED Pro France, des compagnons électriciens de Rambouillet. Des problèmes d'électricité? LED Pro France. Besoin d'un dépannage, d'un conseil électrique? LED Pro France. Une installation électrique ou d'éclairage LED? LED Pro France. Une rénovation électrique de maison, commerce, industrie, particulier ou professionnel? LED Pro France. LED Pro France, c'est une équipe avec un savoir-faire familial, toujours professionnel, avec une garantie décennale. LED Pro France, votre partenaire électricien proche de vous, c'est une équipe de compagnons électriciens qualifiés sur Rambouillet et sa région. Plus d'informations sur ledpro-france.com.
Bienvenue au Savoyard, 46 rue d'Angivillers à Rambouillet. Depuis 30 ans, le restaurant Le Savoyard propose une cuisine traditionnelle française et aussi des spécialités savoyardes. Le tout fait maison. Alors pour un moment convivial entre amis ou en famille, votre restaurant Le Savoyard vous accueille du mardi au samedi soir. Le Savoyard, 46 rue d'Angivillers. Téléphone 01 34 83 35 77.
RVE 103.7.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en mmh. Moi je passerai pas à la radio parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en mmh. Oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en mmh. Moi je passerai pas à la radio parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter. Allez te faire un mmh. Où je serai poli pour la télé. Mais va te faire un mmh. Balance ton quoi. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Alors Bruno, tu voulais rajouter un petit quelque chose
juste rajouter oui. Par rapport à la formation, donc on ne comprend pas pourquoi le Paris Saint-Germain n'a pas un centre de formation digne de ce nom. Et puis un directeur technique au Paris Saint-Germain, encore une erreur des Qataris. Pourquoi pas avoir récupéré Leonardo, qui savait gérer les Brésiliens du Paris Saint-Germain.
C'est sûr.
Et qui ramenait les bons.
Ouais. C'est bien l'éternel problème. Une petite minute justement pour parler de la refonte de la Ligue des Champions. Vous êtes pour, contre, messieurs? On est contre, hein.
Ouais,
la formule marche tellement bien, l'épreuve est tellement passionnante. Pourquoi la réformer comme pour le mondial?
Pour faire du fric.
Ouais.
Voilà.
Hein, pour faire du fric.
Ouais. C'est toujours été un problème.
Le sport n'a plus sa parole, c'est les médias et l'argent. Et
je pense que la formule actuelle est très bien. Je vois pas pourquoi on va la changer.
C'est vrai que c'est une formule qui plaît quand on voit la qualité des matchs. Hein, c'est
quand même, on a mis c'est du temps à la voir. De mieux qu'on a je vois pas pourquoi on veut la changer.
Alors moi, très égoïstement, je pense qu'elle peut servir au Paris Saint-Germain, puisque ça, il y aura plus de matchs européens, donc plus de matchs difficiles. Donc une compétition plus longue et du coup qui peut vraiment lancer le Paris Saint-Germain.
Bon, on verra, on verra ça.
Ouais, mais au final ils vont tomber contre Trifouille les Oies, ils vont perdre.
Bon, on verra ça. On en reparlera.
Et on fait quoi les autres clubs?
On en reparlera.
Après c'est totalement injuste pour les autres clubs. C'est
vrai. On en reparlera, messieurs. En tout cas, merci d'être venu participer à cette émission dans la joie, dans la bonne humeur. On se retrouve le 2 juin, hein. N'oubliez pas.
Jour de mon anniversaire.
Oui, bah alors c'est bien alors, Bibi. Hein, ça sera l'anniversaire à doubler pour le dernier tribunal.
J'espère que Saint-Étienne sera.
Ouais. Et je ramène le champagne.
Allez, Merci en tout cas, merci à Bastien d'avoir été très brillamment une nouvelle fois aux manettes ce matin, comme l'avait été Damien, tiens, la semaine dernière dans Tribune Sport, hein, puisque Bastien était en congé. Bon dimanche à toutes et à tous. Et puis la semaine prochaine, on vous retrouve pour Tribune Sport et Tribune Foot, donc le 2 juin. Salut à toutes et à tous. Bye bye.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu. RVE, il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Au moins 3 pompiers de Paris en garde à vue pour viol en réunion. Les faits se seraient déroulés dans la nuit de vendredi à samedi dans la caserne du 14e arrondissement, d'après le Parisien aujourd'hui en France. Ils auraient invité à l'intérieur 3 femmes de nationalité étrangère lors d'une soirée arrosée. C'est l'une d'elles, une Allemande, qui a porté plainte. Un chauffeur de bus a-t-il refusé l'accès à une passagère en jupe? La Régie des Transports parisiens ouvre une enquête interne. Le conducteur sera entendu et en parallèle, un appel à témoins est lancé. La nouvelle flambée de violence entre les Israéliens et les Palestiniens fait 5 morts, un côté Israël et 4 du côté de l'enclave palestinienne, dont un bébé et sa mère enceinte. Il y a eu en tout près de 250 roquettes lancées contre l'État hébreu avant des dizaines de raids en représailles. Nouveau rebondissement juridique dans l'affaire Vincent Lambert. C'est maintenant le Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU qui demande à la France de suspendre toute décision d'arrêt. En début de semaine, la Cour européenne des droits de l'homme avait rejeté la requête des parents. Ces derniers refusent l'arrêt des soins de leur fils, décidé par le Conseil d'État. C'est la plus faible mobilisation des Gilets jaunes depuis le début du mouvement. Ils étaient moins de 19 000 partout en France, d'après le ministère de l'Intérieur, moins de 1 500 à Paris. Des manifestations très tranquilles, sauf à Toulouse et à La Roche-sur-Yon, où des grenades lacrymogènes ont dispersé les manifestants. 5 Vendéens ont été blessés et il y a eu des dizaines d'interpellations. Le jeûne du Ramadan commence demain. Le Conseil français du culte musulman a tranché en observant la lune. C'est l'un des piliers de l'islam où les croyants